Vous êtes sur RTL. Jusqu'à minuit 30,
Sabine Calégari sur RTL.
Parlons-nous.
Je suis ravie de passer avec vous cette dernière soirée de notre semaine ensemble. Au fil de nos échanges, vous m'avez confié ce que vous souhaitez de nouveau, de différent, pour vous-même et pour vos proches. Espérer, souhaiter avec le cœur, c'est bien plus qu'un vœu pieux. Comment nous le savons? Eh bien, c'est la nouveauté de cette semaine. Une rubrique spéciale liée à mon métier de psychanalyste. Chaque soir, j'examine avec vous, à la lumière de la science, l'une des facettes de votre cœur. Nous avons déjà parlé cette semaine de l'intuition, de l'intelligence du cœur et du coup de foudre. Alors tout à l'heure, nous parlerons des vœux. Votre cœur au microscope, ce sera 23h, juste après les informations. Je suis Sabine Calégari, jusqu'à minuit 30, je suis là pour vous, sur RTL, au 09 69 39 10 11. Le numéro de Parlons-nous, pour toutes vos questions de vie, pour tous les sujets qui vous interrogent. Paul et Olivia reçoivent vos appels et vous guident au standard. Et si vous souhaitez réagir par écrit, pour témoigner, pour soutenir un auditeur, c'est par SMS au 64 900 code RTL ou sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Avec Marc Bisset à la réalisation, nous sommes prêts à vous accueillir. Bonsoir Fanny.
Bonsoir Sabine.
Eh bien, je vous écoute Fanny. De quoi souhaitez-vous nous parler?
Mais en fait, je voulais vous parler de la relation entre mon papa et mes deux sœurs.
Oui.
En fait, Noël dernier, donc le Noël 2020, on s'était tous réunis malgré la situation sanitaire. On avait fait tout ce qu'il fallait pour se réunir en toute sécurité en vacances, en fait. On n'avait presque jamais fait ça. Et il y a eu un gros clash entre mon papa, ma belle-mère et mes deux sœurs, quoi.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, personnellement, je pense qu'il y avait beaucoup de choses d'avant non dites, mais c'est parti sur des bêtises, si vous voulez, des broutilles, des... Voilà.
Oui.
Des remarques qui ne sont pas passées, ou des choses ci et là, et je pense que tout le monde était peut-être un peu à cran aussi pour certaines choses ou d'autres.
Oui.
Et ce qui a fait que, c'est parti en vrille. Hein. Et voilà, mon papa est reparti et puis nous on a décidé de partir. On n'est pas resté dans la location et voilà.
Ah, donc vous avez dû interrompre le séjour, c'était grave à ce point.
Ah oui. C'est mon papa et ma belle-mère qui ont décidé de partir en premier dès qu'il y a eu le clash. Et après nous on s'est concerté toutes les trois avec mes sœurs en se disant qu'on ne pouvait pas rester là.
C'était trop lourd.
Oui, ouais.
C'est ça. Et là, Fanny, donc vous parlez de ce qui s'est passé en 2020. Si vous en parlez aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des conséquences sur votre vie de famille?
Oui, ils sont toujours fâchés. Et moi, si je vous appelle, c'est parce que ça me pèse beaucoup, en fait.
Là, à Noël, vous ne vous êtes pas réunis?
Ah non, non, non.
Donc pendant un an, personne ne s'est parlé?
Si vous voulez, il y a eu des messages d'envoyés entre mes sœurs et je vais dire mes parents. Et moi, j'ai toujours gardé contact, puisque avec moi, tout s'est bien passé. Enfin, si vous voulez, je suis restée un petit peu en arrière de tout ça.
Oui.
Mais par rapport à mes sœurs, il y a eu quelques messages d'envoyés, des tentatives de reprise de contact, mais qui n'ont pas abouti, en fait. Et chacun et chacune a fait Noël de son côté cette année. Mais c'est pas tant soi qui me fasse du mal. C'est le fait qu'on en soit toujours là un an après, quoi, en fait.
C'est ça, vous aimeriez que les liens se renouent et que les choses se normalisent un peu.
Oui, oui.
Alors, vous parliez de votre père et de votre belle-mère. Donc, votre mère n'était pas là. Elle est toujours en vie.
Elle est partie.
C'est ça.
Non, elle est partie. Oui, oui.
Et votre belle-mère, vous la connaissez depuis l'enfance ou c'est un mariage récent?
Attendez que je réfléchisse. Depuis 2003, oui.
Oui, ça fait presque 20 ans.
Oui.
Donc vous et vos deux sœurs, vous n'avez pas grandi avec elle, mais vous la connaissez depuis longtemps.
Oui, ma petite sœur a quand même été un peu élevée par elle, parce qu'on a une différence d'âge avec ma petite sœur, donc si, un petit peu par rapport à ma petite sœur, on va dire. Mais c'est vrai que moi et ma grande sœur, on était déjà adolescentes, grandes,
oui.
Voilà.
Là, manifestement, le couple donc de votre père et de votre belle-mère était solidaire. Ils ont décidé ensemble de partir.
Oui.
Et pendant la crise et la dispute, ils étaient du même côté, dans le même camp.
Oui, oui, oui.
D'accord.
Je pense qu'ils se sont sentis tous les deux pris en grippe, en fait, par mes deux sœurs. Et c'était la même chose dans l'autre sens, pas en fait. En fait, mes parents, je vais dire mes parents à chaque fois. Hein, mais
oui, oui, on a précisé les choses, donc
voilà.
C'est clair maintenant.
Mais je pense qu'ils se sont sentis piégés et j'ai eu l'occasion d'en reparler avec eux. C'est ça aussi qui me pèse. On ne parle plus maintenant ni avec les uns ni avec les autres, mais j'en ai beaucoup parlé et moi j'étais au centre de tout ça aussi. Donc ce n'était pas évident. Et eux, ils se sont sentis piégés en fait, en disant qu'il y avait quelque chose qui avait été manigancé contre eux, qu'eux avaient essayé de tout bien faire, parce que c'est eux qui sont arrivés en fait au logement en premier,
oui.
Hein, qu'on avait loué ensemble. Et donc voilà, il y a eu une impression de prise au piège. Bon ben voilà, elles ont voulu faire capoter le Noël et ils leur en veulent parce qu'ils me disent ben il fallait le dire avant s'il y avait un souci en fait, mais pas
donc,
attendre qu'on soit tous réunis.
En fait, donc vos parents sont arrivés pleins de bonnes intentions en premier,
oui.
Et ensuite
oui.
Ce sont vos sœurs qui ont parlé de ce qu'elles avaient sur le cœur depuis un certain temps, c'est ça?
En fait, elles en ont parlé avant.
Oui.
On avait un groupe, si vous voulez, toutes les trois ensemble de frangines.
Oui.
Et je sentais bien déjà qu'il y avait beaucoup de négatifs, des petites choses comme « Ah oui, mais il y a ça et ça qui ne vont pas plaire à papa et à maman ».
À propos du séjour et de la location.
Oui, à propos D'accord. du séjour, genre bon, on ne va pas pouvoir faire comme on veut, enfin quand on va vouloir faire ci et ça, ça va pas bien se passer. Ils vont vouloir, voilà.
Donc elle les critiquait.
Un petit peu les choses.
Elle les critiquait d'avance.
Oui, ça je l'ai ressenti. Je m'en suis rendu compte après en fait.
Oui.
Moi sur le coup je disais bah les filles arrêtez, voilà, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et c'est par après ou quand il y a eu le clash, je me suis dit oui mais c'est vrai qu'elles étaient déjà voilà
réticentes
dans un oui. Et après, par rapport au séjour, ce qui a vraiment déclenché, c'est une remarque de mon papa. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment des deux côtés pour moi. Mais
oui.
Qui, en fait, a fait une remarque à ma petite sœur en lui disant, écoute, tu n'as pas à faire... Enfin, si vous voulez, ma petite sœur a fait une remarque à ma fille en lui disant, ma petite chérie, comment ça va les amours à l'école? Et là-dessus, mon père a enchaîné en disant, écoute, ma grande, avant de donner des conseils à ta nièce, essaye déjà de trouver quelqu'un. Et
oh
là, ça a été
rude. Ah oui, c'est rude.
Ouais.
De but en blanc, il a appuyé sur un point sensible. Elle est seule,
oui.
Votre sœur?
Elle ne l'est plus maintenant.
Oui. Et donc, elle l'était en 2020?
Oui, c'est ça, oui, oui. Et donc, oui, forcément, ça appuie sur quelque chose.
Ah bah oui. On va dire que c'est pas délicat.
Oui.
Donc, oui. Et ensuite, donc votre sœur s'est révoltée en écoutant ça?
En fait, je pense que ce qui s'est passé après par rapport à ma belle-mère, c'est qu'elle lui en a voulu de ne pas être intervenue, en fait. Et quand on en a discuté ensemble, je lui ai dit, tu sais, moi non plus, je suis pas intervenue, j'aurais pu intervenir, mais pour autant, ne lui en veux pas. Et après, ce qui s'est passé avant qu'il y ait le clash, c'est que forcément, ma petite sœur est montée à l'étage, elle a embarqué ma grande sœur avec, et moi, elle m'a envoyé un message, j'étais en bas en fait avec les parents,
oui.
Et elle me dit, écoute, monte en haut, regardez la télé avec nous. Bah, je dis, écoute, non, je sentais bien qu'il y avait un petit malaise par rapport à ça. Donc, je lui dis, on va toutes s'isoler en haut et les parents en bas, ça ne va pas.
Oui, oui.
Et du coup, ça a commencé comme ça. Et puis, il y a eu aussi une petite discussion entre mon père et ma belle-mère au sujet d'un truc encore tout bête, mais j'étais pas là pour entendre. Mais apparemment, il devait contacter une amie qui était sur place en vacances et qu'il connaissait. Et ils s'en sont pris la tête tous les deux, apparemment. Mais maintenant, ils disent que non, oui, que c'est à cause de ma sœur. Et de là, ma belle-mère est partie. Moi, je l'ai suivie pour aller l'accompagner, et, parce que c'était pas une période évidente aussi pour elle. Je vais vous expliquer après.
Oui.
Et de là, on a eu un coup de fil quand je me baladais avec ma belle-mère en disant « Ah, ben, ça y est, tout le monde s'en va. » Mais je dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, mon père, je pense, de par sa dispute avec ma belle-mère au sujet des numéros d'une amie, a commencé à dire que tout ça venait de ma petite sœur, enfin voilà, que... Et ma grande sœur est descendue. Et là, je pense que vous voyez tout plein de choses enfin, les ressentis de tout le monde, hop, sont sortis d'un coup et tout
c'est
a été balancé.
C'est ça. Est-ce que votre père a, depuis un certain temps, une relation particulièrement difficile avec votre petite sœur? C'est à elle, hein, qu'il a fait la remarque sur le couple. C'est à la même sœur, hein, c'est votre
petite sœur. Oui,
c'est la petite sœur. Est-ce qu'il y avait déjà des difficultés de relation entre deux, entre votre père et elle?
En fait, ils ont été très fusionnels quand ma maman est partie, hein, parce que ma petite sœur avait 4-5 ans.
Ouais.
Et donc, du coup, une relation fusionnelle, après, s'en est suivie. Mais par contre, il y a déjà eu un clash entre eux deux, oui, à une certaine époque.
Donc, c'était fusionnel quand votre petite sœur était tout enfant. Ils se sont rapprochés,
oui,
pendant le moment de deuil. Et ensuite,
oui,
et ensuite, vous dites qu'il y a un moment où ça a été plus difficile. Il y a une période plus difficile qui se situe quand, à peu près?
Pas très très longtemps.
Donc, après l'entrée de votre belle-mère dans la vie de votre père?
Oui, en fait, ça s'est très bien passé avec notre belle-mère. Je vous dis, voilà, ma petite sœur avait retrouvé une maman. De toute façon, ça c'est clair et net. Mais je pense que ma petite sœur a réalisé aussi plein de choses. Puis, ce qui n'a pas trop plu à notre papa, c'est qu'on s'est fait une réunion aussi toutes les trois entre sœurs et que mon père s'imagine qu'on a beaucoup parlé de notre maman et que du coup, il y a eu quelque chose qui a fait que voilà, ma petite sœur s'est détachée de lui, je pense. Enfin, tout ça, c'est ce que je pense moi-même.
Ah. Et de manière générale, dans votre famille, est-ce que vous parlez de votre maman? Est-ce que votre père en parle? Est-ce que vous en parlez librement? Est-ce que vous vous souvenez d'elle ensemble? Ou est-ce que c'est un sujet plutôt passé sous silence?
Alors, c'est justement ce que ma petite sœur a soulevé une fois dans la discussion entre nous, en disant que voilà, on ne parlait jamais d'elle à table, voilà, même en présence de notre belle-mère, ça n'est jamais arrivé. Et lorsque ça arrivait, malheureusement, moi j'ai l'impression que c'était notre papa qui en reparlait, mais donc de lui-même, et après qui nous reprochait de remettre le sujet de notre maman sur la table avec toutes les histoires de famille, vous comprenez, la belle famille, parce que bon,
oui,
il a dû ressentir par rapport à la belle famille, à des choses passées, mais qui nous, à la limite, ne nous concernent pas parce qu'on était trop jeunes.
Donc vos grands-parents maternels, c'est ça?
Oui, en quelque sorte, et les frères et sœurs de notre maman, quoi.
C'est ça, donc la famille du côté de votre maman.
Oui.
Donc finalement, du côté de votre père, il y a une sorte de nœud, c'est que votre père est divisé, il est partagé sur la question de votre maman. C'est que lui, il peut en parler spontanément quand il en a envie, quand il en a besoin. En revanche, c'est difficile pour lui quand ce sont vos sœurs, ou vous et vos sœurs, qui prenez l'initiative d'en parler. Il y arrive quand c'est lui qui prend l'initiative. Mais si c'est l'une de vous qui amène le sujet, dans ces cas-là, ça fait une résistance de son côté.
Oui.
Donc il a une attitude un peu paradoxale par rapport à ça.
Oui, après, il y a des... je sais pas si je peux rentrer dans les détails, mais il y a des histoires de tromperies entre nos parents respectifs à la base aussi. Donc, est-ce que ça joue pas dans le fait que voilà.
Donc, moi, je pense que votre père avait trompé votre mère.
Oui, et c'était arrivé aussi dans le sens inverse. C'était ma mère qui l'avait fait en premier, en fait.
Oui. Est-ce que quand votre mère a disparu, il y avait un climat difficile entre elle et votre père?
Oui.
Elle est tombée malade? Elle est tombée malade, votre maman?
Oui, oui, oui.
Oui. Et à ce moment-là, le couple était en difficulté?
Voilà, exactement.
Ah bah oui. Là, c'est important que vous puissiez dire ça, Fanny. Enfin, c'est courageux à vous d'en parler, parce que un deuil, c'est extrêmement difficile quand la situation n'était pas limpide avec la personne disparue. On a raison de dire qu'il vaut mieux essayer d'être en paix avec la personne qui part, ce qui permet ensuite d'être plus en paix avec son deuil. Et si, comme vous l'évoquez, la situation entre votre mère et votre père était tendue, qu'il y avait eu peut-être des blessures, des ressentiments de part et d'autre.
Ouais.
Là-dessus, un drame se produit, votre maman disparaît, et votre père peut-être est divisé entre le ressentiment qu'il avait envers elle et qui continue peut-être, et puis cette tendance que nous avons quand quelqu'un disparaît, de le sacraliser en quelque sorte. On ne critique pas de la même façon une personne disparue et un vivant. Donc là, votre père est divisé entre peut-être son ressentiment, ce qui n'allait pas, et puis cette part de sacralisation qu'il y a toujours quand quelqu'un s'en va.
Mais quand les rares fois où on en a parlé, c'était toujours quand on était en famille, hein, de notre maman, où il en a parlé avec des mots pas gentils, en fait. Et c'est ça qui... Et ma petite sœur est persuadée que si on était tout seul avec lui, on pourrait en parler librement, on arriverait à en parler, sans avoir peur de mettre les pieds dans le plat, je vais dire, par rapport à notre belle-mère, quoi.
Quelle est la position de votre belle-mère par rapport aux souvenirs de votre maman? Est-ce qu'elle est à l'aise avec ça? Comment elle se sent par rapport à ça?
Bah, je dirais effacée, elle n'a jamais trop intervenu, et plutôt justement le jour où il y a eu des mots de méchants dits sur ma maman par rapport, venant de mon père, elle est intervenue en lui disant, écoute, non, tu exagères, quoi. C'est la mère de tes filles, donc...
Oui, donc elle a plutôt une position généreuse, votre belle-mère.
Oui.
Elle ne se met pas en rivalité avec votre maman, en
non.
tout cas.
Non, moi, je n'ai jamais ressenti ça, en tout cas. Donc
ça, c'est plutôt une attitude saine.
Oui.
Elle est à sa place, c'est la deuxième femme de votre père, et elle n'éprouve pas le besoin de se comparer ou de critiquer votre maman.
Non, aucunement.
Donc c'est plutôt votre père. Et quand vous dites que votre sœur pense que ce serait plus facile si votre belle-mère n'était pas là, il n'y a jamais des moments seuls entre votre père et ses trois filles?
Non.
Ça, c'est peut-être pas simple. Même si vous appréciez votre belle-mère, c'est peut-être pas simple que vous n'ayez jamais un accès direct et exclusif à votre père.
C'est le ressenti de ma sœur, mais moi je sais que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps de ma maman par rapport à une émission médicale qui passait. Et voilà, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute papa, ça me fait penser à maman, je suis désolée de te reparler de ça, etc. J'ai pris une délicatesse pour lui. Oui, exact, voilà. Et voilà, il m'a répondu, écoute, tu ne m'embêtes pas avec ça. Et il m'a donné 2-3 précisions, parce qu'on ne sait vraiment pas au final, au niveau de la maladie, de quoi elle est partie. Et voilà, on a reparlé, et avec moi, ça va. Mais j'arrive à communiquer là-dessus. Mais c'est ce que chacun pense des autres, en fait, dans la famille. Ce que mon père pense de ma petite sœur, ce qu'elle pense de ma belle-mère, est-ce que mon père pense de ma petite sœur, parce qu'il est outré par son attitude de Noël. Hein. Il dit ça, il n'en démord pas et il veut des excuses. Donc on est coincé dans, dans tout ça. Quoi.
Chacun est figé dans sa position.
Ouais.
Et oui.
Ouais.
Et votre père, il peut être dur parce que quand il la remarque qu'il a faite à votre sœur ou quand il se ferme au moment où vous essayez de partager avec lui un questionnement médical sur votre maman, il peut être rugueux, votre père.
Ben, je vous dis, sur le questionnement médical, il m'a répondu, mais on s'est envoyé des messages, mais il m'a quand même répondu à moi. Comme si ça passait mieux, mais parce que forcément, moi j'ai toujours contact avec lui, donc il va pas me fermer la porte à tout ça. Mais
ouais. C'est ça. Et c'est pas facile que cette énigme pour autour de la maladie de votre maman. Vos deux sœurs ne le savent pas non plus. Aucune de vous trois ne sait exactement ce qui s'est passé.
On sait, mais on ne saura vraiment pas au final à cause de quoi, on va dire.
Il reste une part d'énigme. Vous auriez besoin d'en savoir plus ?
Non.
D'accord.
Non, parce que j'ai eu deux, trois éclaircissements de mon papa, mais et puis on était en âge aussi de comprendre les choses à l'époque. Hein,
oui.
Donc.
Alors que c'est avec votre petite sœur que c'est plus compliqué.
Oui, ouais, j'ai
et
l'impression.
Elle, votre petite sœur, elle considère qu'elle en sait suffisamment sur ce qui est arrivé à votre maman, ou est-ce que...
Oh. Oui, non, ça, elle ne... je pense qu'elle a eu besoin à une époque, quand elle est devenue jeune femme, de parler de sa maman.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on... Ah, c'est pas rien que pour ça. Si mon papa m'entendait, il dirait, voilà, vous voyez, je vous l'avais dit, vous avez un souci avec votre mère, mais... Mais je pense que c'était une nécessité, un besoin, parce qu'elle était tellement petite que et qu'on lui explique des choses. Alors bien évidemment, il a fallu qu'on parle de des tromperies et tout ça. Et ça, je pense que ça n'a pas plu forcément à mon papa. Il a dû se sentir jugé. Mais par rapport à la maladie, oui, je pense que ça a donné quelques éclaircissements à ma petite sœur. Ouais.
Oui. Alors. Vous, puisque votre souhait, c'est que cette famille renoue, est-ce que, déjà, si vous y êtes prête, d'évidence, puisque vous n'avez rompu avec personne, et vos deux sœurs, quel est aujourd'hui leur grief principal envers votre père? Quelle est la chose qu'elles jugent infranchissable pour revenir vers lui?
C'est-à-dire que c'est vrai que je parle beaucoup de ma petite sœur, mais c'est avec elle que j'ai plus de contact. Elle a fait le pas plusieurs fois. Elle a envoyé un message pour la fête des papas, pour son anniversaire. Il n'y a pas eu de réponse. Donc, je pense que le blocage est vraiment lié de l'autre côté. Il y a eu un courrier aussi d'envoyer. Enfin,
dans une tentative plutôt d'ouverture et de...
Oui.
Oui. Donc, vos deux sœurs... Elle, même si votre petite sœur a été offensée à Noël et que c'est plutôt elle qui est montée à l'étage, aujourd'hui, vos deux sœurs ne sont pas fermées à la réconciliation.
Non.
D'accord.
Non.
C'est plutôt du côté de votre père.
Oui.
Alors votre père, pourquoi il est fermé comme ça? Qu'est-ce qu'il considère comme offensant au point qu'il ne peut pas réouvrir la porte?
Alors, de ce qu'il m'a fait comprendre, c'est le fait qu'il nous ait élevés toutes les trois après le départ de notre maman et qu'il comprend qu'aujourd'hui, on lui manque de respect. Voilà, c'est surtout par rapport au respect lors de cette dispute.
Qu'est-ce qu'il entend par respect? Qu'est-ce qu'il veut de ses filles, votre père?
Qu'est-ce qu'il veut? Oui. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il voudrait des excuses.
Parce que, est-ce que votre père ne peut pas prendre sa part de responsabilité? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il reconnaisse que ça a mal tourné, que lui, il a quand même abordé votre petite sœur de façon très frontale, avant de donner des conseils à ta nièce, alors que c'était quand même un sujet léger et gentil. Tu ferais mieux de t'occuper de ta vie privée ou de rencontrer quelqu'un. C'est rude. Est-ce que votre père, il peut... prendre sa part de responsabilité, reconnaître que lui a été dur, que dès lors, votre petite sœur a réagi, mais bon, maintenant, elle est avec quelqu'un, maintenant, un an s'est écoulé. Est-ce que vous pensez qu'il peut renoncer à sa demande d'excuses, parce que ça, pour votre petite sœur, c'est difficilement recevable, et considérer que chacun a sa part de responsabilité, mais que c'était il y a un an, de l'eau a coulé sur les ponts, votre petite sœur est en couple. Est-ce que vous pensez qu'il peut revoir un peu sa position ?
Non.
Ah oui.
Non.
Et votre père est très... il est très rigide là-dessus. Il considère qu'il en fait une question de principe, c'est ça ?
Je pense, oui.
Ouais. Il était déjà comme ça avant ? Vous pensez que votre père a une personnalité un peu raide, un peu rigide sur les questions de principe, de morale ?
Oui.
Ouais.
Un petit peu, oui.
Fanny, ce qui me semble difficile dans ce que vous dites et dans votre projet de réconciliation, c'est qu'il me semble que votre père est dans de multiples contradictions entre lui et lui. Il me semble qu'il y a probablement des choses qu'il peut assumer difficilement.
Oui.
Peut-être la question des tromperies avec votre maman. Peut-être aussi ce qui s'est passé à la fin de la vie de votre maman, parce que s'il n'en parle pas volontiers, peut-être qu'il est partagé sur cette question du deuil. Enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui sont paradoxales, conflictuelles à l'intérieur de votre père. Et comme les choses ne sont pas claires en lui, il n'arrive pas à entrer en relation de façon limpide avec l'autre.
D'accord, ouais.
C'est ça qui me semble bloqué dans ce que vous dites.
Mm-hmm.
Et là, c'est difficile parce que parce que si votre père pouvait assumer un certain nombre de choses, pouvait assumer sa responsabilité sans que ça fasse de lui, sans forcément...
Oui, un coupable, oui.
Exactement. C'est toute la différence. Vous avez parfaitement raison. C'est toute la différence entre la responsabilité et la culpabilité. Mais votre père, manifestement, ne peut pas faire ça. Et dès lors qu'il ne peut pas le faire en lui, eh bien, ça ne lui permet pas d'aller vers l'autre à partir d'une place nette et d'une place fluide.
Mmh.
Et finalement, ce qui n'est pas clair en lui, eh bien, il le reporte aussi, il l'importe dans le lien avec l'autre.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose d'assez profond. C'est presque l'enjeu d'un travail sur soi, vous voyez.
Et
ça me semble quasiment impossible, dans la position actuelle de votre père, d'évoquer l'hypothèse d'un travail sur lui. Ça me semble... il semble loin de cette idée-là.
Oui.
Donc je me demande, Fanny, si la meilleure solution pour vous, ça n'est pas de garder... cette position que vous avez, vous avez fait votre choix, vous êtes dans la position la plus souple des cinq protagonistes, vous parvenez à dialoguer avec votre père, et c'est tant mieux pour vous, parce que c'est très dur d'être coupé d'un père, ça vous relie aussi à votre maman, la possibilité de parler à votre père. Eh bien, ça, vous vous êtes donné la chance, grâce à votre souplesse, d'avoir le lien avec votre père, d'avoir le lien avec vos sœurs. Mais je pense que, hélas, vous pouvez vouloir ce qui est bien pour votre propre vie, et vous avez instauré cette souplesse, mais vous ne pouvez pas vouloir pour l'autre et faire évoluer l'autre. Vous voyez, là, il me semble qu'il y a une butée et quelque chose qui est hors de votre portée, qui est hors de notre portée à tous, hein, quand quelqu'un ne veut pas bouger, ne pas évoluer. Donc je me demande si la position que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas la moins mauvaise des solutions pour l'instant, en se disant que dans la vie et chez l'humain, rien n'est jamais figé, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Peut-être qu'il se passera un événement qui va renouer une solidarité dans la famille, ça arrive.
Oui.
Parfois une épreuve, ou pas forcément dramatique, mais quelque chose qui ressoude la famille et qui lui permet de dépasser les dissensions. Peut-être, on ne peut pas savoir, vous savez, qui avait prévu l'épidémie il y a 2 ans, personne. Donc, il peut se passer toutes sortes de choses. Et je pense que, pour vous, l'espoir, c'est de compter sur l'imprévu dans la vie, sur les événements, ou sur les mouvements imprévus chez un être humain, on ne sait pas ce qui peut avoir valeur de déclic pour à ce moment-là faire une nouvelle tentative. Mais je crois que dans la situation actuelle, il n'y a pas d'ouverture.
Oui, et il faut pas que j'essaye de parler à mon papa et en lui disant, écoute, essaye de faire
écoutez,
une thérapie.
Je crois pas, parce que je pense que ça. Il me semble que vous avez manifesté beaucoup de souplesse, que vous avez fait beaucoup d'efforts pour que vous, votre lien avec votre père soit maintenu. Je crains que ça ne vous jette dans la tourmente et dans les souffrances. Vous essayez de faire bouger votre père alors qu'il est en plein conflit avec lui-même et qu'il ne veut pas regarder ces questions-là, et il risquerait de considérer que vous ralliez le camp de vos deux sœurs, ça risquerait de se retourner contre vous et de créer encore plus de peine. Je ne vous le recommande pas.
D'accord.
Il me semble que tout au plus, vous pouvez de temps en temps dire à votre père, peut-être sans prendre parti du tout, en disant, tu sais papa, on a eu beaucoup d'épreuves, on a eu des épreuves dans la famille, et je suis peinée qu'on n'arrive pas plus à se retrouver. Vous voyez, ça c'est générique comme formulation. Oui. Vous ne dites pas c'est de ta faute, c'est de la faute des sœurs. Vous faites un constat, dire notre famille a eu beaucoup d'épreuves. Finalement, on a réussi à les traverser. Et je regrette qu'on ne soit pas dans une communication plus fine. Juste ça.
D'accord.
Et voir peut-être ce qu'il dit. Et en lui envoyant. Parce qu'en lui envoyant des balises comme ça, vous arriverez à sentir, Fanny, s'il bouge ou pas. Selon la façon dont la balise revient, vous sentirez s'il est tout aussi figé ou. Si, merveille, il vous répond « Ah ben moi aussi, je le regrette, mais quand même, ta sœur exagère. » Et s'il dit ça...
Ah ben ce serait plutôt ça, ouais.
Oui, mais s'il dit « Moi aussi, je le regrette », ça vous permet de faire le tout petit pas suivant. C'est, tu sais, papa, dans les conflits, quand le temps a passé, c'est peut-être plus très important de savoir qui a tort. Enfin, quelque chose de très, très... qui pointe pas le... Voilà. C'est papa, c'est peut-être plus très important aujourd'hui de savoir qui a tort. Peut-être que l'important, c'est qu'on se retrouve. Vous voyez, toujours mettre l'accent sur les retrouvailles, sur ce qui peut rapprocher et pas sur ce qui sépare. Et peut-être qu'à un moment donné, votre père sera ouvert. On ne sait pas.
Oui.
Bon, c'est pas simple, Fanny, vraiment.
Non.
Et d'après ce que vous dites, enfin, je crois que vous le sentez vous-même, c'est que ça, c'est la conséquence de choses qui remontent à loin et que
vous,
et de conflits intérieurs, en particulier chez votre père, il me semble qu'ils remontent à loin. Et ça, je pense que vous pouvez pas prendre à votre charge de démêler toute la plotte. C'est plutôt un travail en thérapie si votre père souhaite le faire. Ou alors d'évolution, si la vie l'amène à remettre en question sa position, on ne sait jamais. Mais vous savez, je vois au cabinet, avec les patients que je reçois, il y a toujours de l'espoir, parce que rien n'est jamais figé dans la vie, ni les événements, ni les personnes. Donc tout ce qui peut sembler très fermé à un moment donné, il peut vraiment y avoir une ouverture. Et à ce moment-là, vous irez dans le sens de la réconciliation.
Bien sûr,
Bon.
On va rester sur l'espoir, alors.
Oui, qui est tout à fait fondé. Ça, vraiment, je le vois sans cesse, même dans les choses qui paraissaient les plus figées. Donc, restez cet espoir en restant en vigilance. Et quand vous voyez une ouverture, ça, je suis sûre que vous saurez parfaitement faire.
Mm-hmm. D'accord.
Eh bien, belle fête à vous, Fanny.
Merci, merci beaucoup, Sabine.
Avec grand, grand plaisir.
Merci beaucoup.
Et je vous souhaite une belle année la plus fluide possible.
Merci, à vous aussi.
Bonne nuit à vous, Fanny.
Sabine Calégari sur RTL.
Parlons-nous.
Jusqu'à minuit 30.
Sabine Calégari sur RTL.
Parlons-nous.
Et parlons-nous continue au 09 69 39 10 11. Bonsoir, Madeleine.
Bonsoir, Sabine.
Eh bien, Madeleine, qu'est-ce qui vous arrive? De quoi souhaitez-vous nous parler?
Alors, voilà, je suis une mamie et j'ai 4 petits-enfants.
Oui.
Ma fille a reçu un mariage. Elle a eu 2 petits garçons avec son nouveau mari.
D'accord.
Et nous avons passé Noël tous les 4, tous les 6, tous les 7.
Alors, donc les 4 petits, fait, d'accord. 4 petits-enfants, le couple et vous, 7.
Donc, ça fait 7 en tout. Oui. Et donc, ils sont venus dans ma région passer Noël, dans un Airbnb. Et la première nuit, j'ai entendu le papa. Alors, le petit qui a un an et demi a pleuré, donc ma fille allait se coucher avec lui.
Oui.
Donc, le papa, le tout petit de un mois avec lui, qui avait des coliques.
Oui.
Et j'ai entendu le petit pleurer. Bon, moi, j'ose pas trop m'immiscer, donc j'ai rien dit. Puis à un moment, j'ai entendu papa dire, il a dit fils de P, d'accord ?
Au bébé ?
Au bébé.
Oui.
Alors ça m'a choquée.
Et il l'a dit en criant ou sur quel ton ?
Ah non, pas du tout, il a dit tout bas, il n'était pas énervé, mais il était fatigué, le papa était fatigué, parce que je sais qu'il était fatigué, bon voilà.
Oui.
Je ne lui en veux pas parce que c'est un super monsieur, vraiment, vraiment, un super papa, même avec les deux premiers, ma fille et tout. C'est pour ça que ça m'a choquée. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais j'ai bien entendu, parce que je ne dors pas la nuit. Je suis
une oui,
nuit,
je oui, oui.
Et lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit, bah écoute, j'ai dit, bon, je ne dis pas le prénom, j'ai dit, apporte-moi le bébé. Il me l'a apporté. Il n'était pas nerveux ni rien, il était bien. Mais et quand j'ai entendu ça, ça m'a choquée, parce que je me suis dit, mais jamais, jamais, il parle comme ça aux enfants, jamais.
Oui, donc vous pensez que c'est un dérapage ponctuel ?
Oui.
Oui.
Mais ça m'a choquée. Et c'était le soir de Noël, je ne me souviens pas. C'était la veille au soir de Noël, c'était il y a quelques jours. Et je ne sais pas comment faire, parce que moi, j'ai envie d'en parler à quelqu'un, parce que ça m'a tellement choquée que ça me perturbe.
En dehors de cette expression, vous n'avez jamais assisté à des phrases ou des gestes violents ?
Jamais, jamais, jamais. C'est une personne très bien, il a son entreprise, ma fille aussi est très bien sa vie. Ils sont très bien tous chez eux.
Le couple s'entend bien ?
Ils sont très bien ensemble, c'est merveilleux. Oui. Je suis tellement heureuse d'avoir ma fille et mon genre comme ça, ce que je suis... C'est pour ça, ça m'a choquée, c'est pour ça.
D'après la façon dont vous le dites, Madeleine, ça donne le sentiment de quelqu'un qui était à bout de nerfs ou à bout de fatigue.
Voilà, c'est ça.
Et qui a dérapé, enfin voilà, déjà il n'a pas hurlé, peut-être que c'est entre lui, il arrive qu'on marmonne des choses entre soi et soi, quand on est à bout, ça ressemble plutôt à ça, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, mais de dire ça, fils de, vous voyez ce que je veux dire ? Fils de, avec le P, à la fin, avec...
Un
tout petit bébé, et alors que ma fille, c'est ma fille, ça m'a choquée.
Je comprends que vous ayez été choquée. Maintenant, c'est toujours à resituer dans une histoire, dans un fil. Si c'était quelqu'un qui... insulter votre fille, par exemple, du même terme qu'il employait pour le bébé.
Déjà,
ça n'aurait pas la même résonance. Si c'était quelqu'un qui régulièrement avait des gestes ou des mots violents envers ses enfants, ça n'aurait pas la même résonance.
Ah ouais, non, jamais.
Là, je pense que vous auriez pas pu passer à côté de ça. Donc, ça ressemble plutôt à... ces fois où on craque, on est à bout de nerfs et on dit un presque tout haut ce qu'on pense tout bas. Donc c'est un mot malheureux, il me semble. Mais est-ce que ça porte tellement à conséquence ? Je dis pas que c'est bien. Hein. C'est que évidemment qu'il vaut mieux qu'un enfant n'entende jamais ça, même à voix basse. Bien sûr qu'il vaut mieux que nous soyons toujours dans l'état de garder nos nerfs et de rester dans une expression juste, mais ça me semble ressembler beaucoup à un dérapage ponctuel.
Oui, c'est ce que je me dis aussi, c'est ce que je me dis tout à fait. Je me suis dit ça aussi.
Oui.
Mais par contre, il a dû savoir que j'ai entendu parce que aussitôt je lui ai dit de m'apporter le bébé.
Et il n'a pas fait.
Il n'a pas lui servi mal.
Il n'a pas fait de difficulté d'ailleurs.
Ah non, il m'a apporté naturellement.
Bah oui. Et pourquoi il est si fatigué, votre gendre ? Qu'est-ce qui se passe pour lui ?
Eh bien, on va dire que... déjà, il a une entreprise. Donc là, il n'a pas travaillé. Bon, à cause du Covid, il n'a pas beaucoup... Il a eu des problèmes
Des soucis.
Il a son entreprise à lui. Donc, il est jeune, il a 27 ans.
Ah oui.
Donc,
oui.
Il a travaillé quand même, mais bon, c'est pas non plus l'extase en ce moment. Et il a déjà deux enfants de ma fille avant. Et il a eu un petit garçon, il a un petit garçon de 20 mois et le bébé de 1 mois. Donc, je me dis, c'est quand même stressant. Ça doit être stressant pour un jeune homme.
Oui. Oui, c'est un jeune papa fatigué par une famille nombreuse et par un travail qu'il met à l'épreuve en ce moment.
Mais c'est un super papa parce qu'il fait tout à la maison. Il fait le ménage, la nourriture. Il fait tout avec ma fille. Il fait tout, 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 tout.
Oui.
Tout ce qu'il ne veut pas faire, c'est le repassage. Sinon, il fait tout.
Bon, alors là, on peut lui pardonner.
Oui.
Et peut-être aussi, vous savez, et puis il a sûrement l'idée que un petit de 1 mois, c'est pas, même si c'est pas souhaitable, je le répète, mais il a sûrement l'idée que ça a moins de conséquences avec un bébé de 1 mois que par exemple avec un enfant de 3 ans qui comprend consciemment les termes.
Oui, mais sauf que moi, ça m'a choquée.
Oui, oui, je comprends bien que vous soyez choquée. Vous savez, Madeleine, il me semble que vous avez deux solutions par rapport à ça. Je pense qu'on ne se trompe pas de beaucoup en disant que c'est un dérapage ponctuel. Soit vous ne dites rien et vous restez simplement en vigilance, c'est-à-dire vous regardez ce qui se passe, vous semblez proche comme mamie de votre famille. Donc, vous vous dites un dérapage ponctuel. C'est jamais souhaitable, mais ça peut arriver à tout le monde. Je reste en vigilance, je vois si quelque chose m'alerte, si ça se reproduit. Ça, c'est votre première option. Votre deuxième option, c'est, à mon sens, d'aller vers votre... Enfin, j'en vois trois des options. Une deuxième, c'est d'aller vers votre gendre et de lui dire avec bienveillance « Tu me sembles vraiment fatiguée en ce moment. » Comment ça va? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que, voilà, de vous enquérir plutôt de sa fatigue? Et s'il est fin, il est possible qu'il fasse les liens tout seul, vous voyez?
Mais de toute façon, je pense que, Sabine, je vais garder la première option parce que je les ai eu au téléphone depuis, ils ne sont pas dans la même région.
Oui.
Et le papa m'a envoyé des photos du petit et tout avec lui et tout. C'est juste que j'étais super choquée, quoi. Ça m'a travaillé longtemps. C'est pour ça que j'ai appelé RTL.
Oui, oui, je comprends. Bah, je comprends, Madeleine, que c'est très difficile de rester avec ça sur le cœur, en ayant l'idée que ce n'est pas des termes anodins et ne pas savoir quoi faire. L'autre, la dernière option, je vous la soumets quand même, c'est de parler à votre fille, non pas de l'incident, mais de prendre des nouvelles de votre gendre en disant, voilà, tu sais, ma chérie, j'ai l'impression que ton mari est fatigué, est-ce que ça va? Est-ce que vous vous en sortez? Et en amorçant les choses comme ça, si votre fille ne rebondit pas, je pense qu'il ne faut pas aller tellement plus loin. Vous pouvez dire, je l'ai trouvé fatigué, j'ai trouvé qu'il avait l'air à bout de nerfs, qu'est-ce que tu en penses? Et soit votre fille ne dit rien, dans ces cas-là, je crois qu'il ne faut pas aller plus loin. Soit votre fille dit, écoute, moi aussi je trouve qu'il est fatigué, d'ailleurs c'est compliqué, avec les enfants c'est pas simple. Vous pouvez lui, dans ce cas-là, l'amener à se confier. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être un peu plus soulagée? Peut-être engager la conversation à petits pas avec votre fille.
Oui, je vais essayer de faire ça. Oui, oui, bah oui, il n'y a pas de problème, je pourrais faire ça avec elle, mais oui. Je sais pas comment. Je pourrais pas, je vais pas le faire directement comme ça, vous voyez ce que je veux dire? J'irai.
Oui.
Oui, je vais lui parler. De toute façon, on se parle tous les jours avec ma fille. Hein.
Alors,
on est en FaceTime tous les jours.
Donc, au fond, vous pouvez dire à votre fille. Quand vous prenez de ces nouvelles et de dire et comment va ton mari? Je l'ai trouvé fatigué à Noël. Est-ce qu'il récupère? Enfin, prendre des nouvelles de votre gendre. Sur...
Oui, c'est sûr que je préfère ça comme ça. Oui, c'est sûr.
Là, ça porte pas à conséquence. Soit votre fille rebondit en disant pourquoi tu me demandes ça? C'est ben quand même, je l'ai trouvé fatigué, il avait l'air à bout de fatigue. Est-ce que c'est ce que tu penses aussi? Est-ce que vous vous en sortez avec les enfants? Est-ce que c'est pas trop fatigant? Vous voyez, vous pouvez lui poser des questions et voir comment elle se positionne. Soit elle donne soit elle ne relance pas, elle ne réagit pas. Et dans ces cas-là, vous dites de faire attention à vous, de pas c'est pas aller trop loin dans la fatigue. Soit elle se confie à vous.
Je pense qu'ils vont bien parce qu'en fait hier elle emmenait ses enfants au théâtre, elle emmenait les deux grands au théâtre et c'est lui qui a gardé les petits.
Oui.
Donc si elle n'est pas trop bien, elle n'aurait pas voulu garder les petits tout seul.
Oui, ce qui donne vraiment l'idée d'un geste ponctuel. Et c'est vraiment.
Oui, moi je pense que c'était ponctuel ce qu'il a oui. dit, mais sur le coup, c'était en pleine nuit en plus, parce que c'était 4h du matin. Bon, c'est quand j'ai entendu ça, quoi. Ce gros mot, ce mot-là, oh, ça m'a travaillé après.
Ça, déjà. On n'a pas tous la même façon d'employer les mots. Vous savez, il suffit d'aller sur un terrain de football pour se rendre compte que des injures peuvent être assez automatiques sans que les personnes ne réfléchissent à ce que ça veut dire au pied de la lettre. C'est des choses qui partent comme ça, c'est impulsif. Enfin, quand je dis un terrain de football, c'est pas spécialement le football, c'est oui. n'importe quelle situation où on peut être un peu impulsif, où il y a des, où il peut arriver que on manie la plaisanterie, l'injure, et on n'y pense plus. Et même chez des jeunes, parfois, il y a des termes assez fleuris pour chez les adolescents. Ils ne réfléchissent pas forcément au pied de la lettre. Donc, je comprends que vous soyez choqués, mais peut-être vous pouvez mettre un peu de distance par rapport aux termes eux-mêmes, en disant que pour vous, qui ne les employeriez jamais, donc qui êtes frappés par le sens que ça a, ça n'a peut-être pas la même portée pour celui qui le prononce, vous voyez ?
Mais de toute façon, c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que je ne veux plus y penser, parce que je sais qu'il n'a pas fait... Il n'a pas voulu me dire ça parce que je le connais par cœur et
oui.
Il faudrait que j'en parle à quelqu'un parce que sinon, quand ça me travaille, il faut que j'en parle à quelqu'un. Et je n'aurais pas voulu le dire à ma fille en direct comme ça parce que ça aurait fait du... Elle aurait pas compris.
Oui, oui,
quand
oui.
Vous le comprenez.
Mais j'ai très... Alors Madeleine, ce que vous pouvez faire, voilà, vous nous remettez la chose et vous nous la confiez, vous vous en libérez.
Et qu'est-ce que je vais faire ?
Effectivement, vous vous fondez sur la confiance que vous avez dans votre gendre. Je ne crois pas que vous puissiez vous tromper. Puis vous gardez simplement une petite vigilance de fond. Juste ça.
Je vais faire.
Oui.
Bon. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Écoutez, Madeleine, voilà, tant mieux si ça a pu vous alléger.
Ah ouais, mais non,
que vous soyez le cœur plus léger pour la suite. Et pour
et
avoir des bons moments.
Je voudrais vous dire. Bon anniversaire à Paul.
Ah, ça lui fera très très plaisir. Il sera touché, j'en suis sûre. Merci pour lui, Madeleine.
Et j'adore RTL. Alors bonne soirée à tout le monde et bonne année à tout le monde là-bas.
Merci beaucoup à vous deux.
Jusqu'à 12h30.
Sabine Calégari sur RTL.
Parlons-nous.
Pour notre dernière soirée ensemble, nous allons mettre sous notre microscope un thème de grande actualité, les vœux. Dans les prochains jours, nous allons tous former pour ceux que nous aimons des vœux de cœur. Pourquoi ce terme ? Parce que dans les vœux profonds et sincères, nous engageons vraiment nos émotions, à la différence des simples vœux de politesse. Et ces vœux sont alors comme des prières, nous voulons qu'ils se réalisent et nous y mettons tout notre cœur. Mais il y a une question que nous avons depuis toujours et que nous pouvons maintenant poser à la science. Est-ce que ça marche ? Est-ce que nos vœux et nos prières arrivent concrètement à leur destinataire ? Est-ce qu'ils ont un effet réel sur leur vie ? La science dit oui. La psychanalyse d'abord. En 1935, après l'observation scientifique de nombreux cas sur plus de 30 ans, Freud a conclu que la télépathie et la transmission de pensées existent réellement. Une pensée, une émotion, une volonté qui se produise à un moment donné chez une personne peuvent se transférer à travers l'espace sur une autre personne et arriver en même temps à sa conscience sans utiliser les voies connues de la communication. En somme, un transfert psychique direct. Comment expliquer ça ? Freud a eu cette intuition extraordinaire. Le processus relève de la physique, dit-il, une physique qu'on ne connaît pas encore. Puis la physique quantique entre en scène pour nous apprendre que tout est connecté. Au début du siècle, c'était encore controversé, Mais en 2012, vous voyez, c'est tout récent, la communauté scientifique s'accorde. Il existe un champ d'énergie intelligente qui sous-tend et relie tout ce qui existe. C'est le champ quantique « The Matrix », comme l'avait appelé Max Planck, prix Nobel de physique. Imaginez ce champ quantique comme une immense toile qui contient tout, tout l'univers. Il fonctionne comme un pont entre nous et les autres, comme un canal qui porte nos vœux de l'intérieur de notre corps dans le monde. Vous voyez, la science nous donne de belles raisons de croire ce que nous sentions déjà intuitivement. Nos vœux de cœur ont une énergie puissante et à l'instant même où nous les émettons, ils sont déjà auprès de ceux que nous aimons. Alors à mon tour de vous faire des vœux du plus profond de mon cœur. Et je sais qu'ils vous parviennent.
Sabine Calégari sur RTL.
Parlons-nous. Vous êtes bien sur RTL.
Jusqu'à minuit 30.
Sabine Calégari sur RTL.
Parlons-nous.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est Parlons-nous, l'émission qui donne la parole en direct pour toutes les questions de vie, pour tous les sujets qui vous interrogent. Pendant une heure et demie encore, nous sommes ensemble, alors n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Bonsoir Emma.
Bonsoir.
Vous m'entendez bien Emma ?
Oui, je vous entends.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors, je me permettais de vous appeler, j'ai perdu mon papa en début décembre.
Oui.
Et début décembre de cette année.
Ah oui.
Et j'ai beaucoup de mal à le vivre. Et j'ai plein de sentiments, tant positifs que négatifs. Mmh. Je ne sais pas comment me situer. Et lors des funérailles, en fait, pour mettre un petit peu dans le contexte, mon père s'est marié il y a 2 mois.
Oui.
Suite à la maladie, pour certainement protéger sa nouvelle compagne.
Ah oui.
Mais ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble et donc du coup là c'était un peu pour officialiser un petit peu avec la maison, les papiers, enfin tout ce qui concerne un petit peu tout ça.
Ouais.
Et moi je m'entends pas particulièrement bien avec cette femme-là. Elle me fait un petit coup de chaud, un petit coup de froid, c'est-à-dire que dans les émotions c'est toujours très ambivalent. Elle a toujours été un peu jalouse et je m'en prends souvent plein la tête.
Oui. Et jalouse de vous. Vous avez des frères et sœurs?
Oui. Alors on est 5. C'est-à-dire qu'elle avait de son premier mariage 2 filles.
Oui.
Par rapport à mon père, elle a moi, mon petit frère. Et ils ont fait un enfant en commun qui est du coup le dernier de la famille. Donc en fait, on est 5 enfants.
D'accord.
Et pour moi, là, les funérailles ont été très difficiles. Ça a été en 2 jours en plus parce qu'il y a eu le funérarium et que du coup, comme c'était l'après-midi, la cérémonie du cimetière était que le lendemain. Donc, je me suis mise un peu dans ma bulle. J'ai eu beaucoup de mal à gérer mes émotions. Et mes frères me l'ont reproché. Ma belle-mère tout autant.
Donc, en plein deuil, elle vous a fait des reproches? C'est dur ça.
Elle m'a toujours fait des reproches, même quand mon père était encore vivant, en fin de soirée, très alcoolisée, c'est toujours moi qui prenais. Même quand je massais mon père pour qu'il se sente mieux, tout ça, enfin, masser les mains, j'entends, pour qu'il puisse se détendre un petit peu. Enfin, j'étais très proche de mon père sur plein d'aspects et très éloignée sur d'autres parce que du coup, notre relation entre elle et moi fait que je mettais un peu de distance avec mon père pour éviter toute complication en fin de soirée avec des crises qui n'avaient pas besoin d'être là, en fait.
Vous semblez dire qu'il y avait l'alcool aussi dans la boucle.
Oui.
Oui. Du côté de votre belle-mère, c'est ça ?
Oui, du côté de ma belle-mère.
Oui, oui.
Et donc, du coup, là, je suis assez fâchée après mon père. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas dire quand on vient de perdre un proche. Mais ouais, je l'aime de tout mon cœur et en même temps, je suis assez fâchée.
De quoi êtes-vous fâchée, Emma ?
Je suis fâchée parce qu'il s'est marié il y a 2 mois. Je l'ai su 2 jours avant son mariage. J'ai appris ça le vendredi pour qu'il se marie un lundi matin dans la mairie de sa commune en catimini.
En catimini ?
En catimini, j'entends, ouais, on l'a su, nous les enfants, 2 jours avant. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas, moi, je l'ai su 2 jours avant. Mon père m'en avait pas parlé, alors que j'avais l'impression que mon père échangeait beaucoup de choses avec moi. Et il a jamais voulu se marier avec cette femme-là. Et 2 mois avant de mourir, il le fait. Donc déjà, ça m'a paru un peu... j'ai pas pu trop me réjouir de cette situation. Mais je me suis bien gardée de lui dire à ce moment-là. J'ai pas, voilà.
Votre père a fait le choix de ne pas vous convier à la cérémonie, même si c'était une cérémonie des plus simples.
Alors, ils ont convié personne. C'est-à-dire qu'ils se sont mariés entre 2 témoins un lundi. Un lundi matin, et il y avait une petite soirée entre guillemets le soir avec les enfants et 2-3 amis qui étaient là, mais c'était pas une grosse fête. Mon père était déjà très malade, donc c'était pas une grosse fête, mais voilà, on l'a su quand même 2 jours avant.
Et 2 jours avant, vous l'avez su comment? Par votre père?
Oui, ils nous ont fait une annonce. J'étais chez mon petit frère, donc l'enfant qu'ils ont en commun. Et le vendredi midi, ils me disent « on a quelque chose à vous annoncer ». Je me suis dit « oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il s'avère que, voilà, ils nous disent « on va se marier lundi ». Donc dans ma tête, je me dis « lundi quand ?»
Oui.
C'est rapide, quoi. Enfin, surtout que j'ai toujours entendu mon père me dire qu'il ne serait jamais ce truc-là, que pour lui, ce n'était pas possible, ce n'était pas envisageable. Et parce qu'elle lui a gâché un peu la vie sur plein de choses, mais c'est la vie qu'il avait souhaité aussi. C'est-à-dire que mon père aimait beaucoup les amis, la fête, l'ambiance, le monde à la maison. Et elle était tout à fait comme ça, par rapport à ma mère qui, du coup, était pas du tout dans cette ambiance-là.
Plus sobre.
Voilà, plus sobre, oui. Et donc,
dans
cette femme-là lui
terme.
Apportait... Oh, tout à fait, oui. Lui apportait tout ce qui lui manquait. Et donc, ça faisait 30 ans qu'ils étaient ensemble. Donc, je peux vous dire que c'est quand même assez vieux. Moi, j'en ai 37. Et depuis que je suis petite, je sais qu'ils se disputaient beaucoup à cause de moi. Donc j'ai raté beaucoup de temps avec mon papa à cause de ça, parce que je n'osais pas trop l'approcher. Et en l'an 2000, on s'est du coup rapproché un peu plus, parce que j'étais une jeune fille, une jeune femme du coup, qui avait un compagnon. Donc enfin voilà, mon père il discutait un peu avec moi. Après, il travaillait de nuit, donc il passait me voir chez moi à sa pause plutôt, pendant que moi j'avais ma première fille du coup.
Oui, oui.
Donc comme je dormais pas la nuit, bah il passait me voir, il avait 1 heure de pause, il passait me voir. On s'était très rapprochés, et puis elle a toujours été méchante en fait. Elle pensait toujours qu'il n'était pas spécialement avec moi et que moi je le couvrais. Enfin, c'est tout un tas de choses comme ça. A contrario, par rapport à mes enfants, elle a toujours été respectueuse. Enfin, elle les a choyés presque comme les autres, en tout cas.
Oui.
Mais je sais qu'avec moi, elle a un problème. Et là, il s'avère que suite au décès, il y a forcément le notaire qui arrive. Et du coup, elle m'a envoyé un mail en me demandant de remplir une fiche d'état civil, donc de moi. Et comme je suis paxée, il fallait l'état civil de mon conjoint, plus le livret de famille de mes enfants, parce que j'ai une famille pas forcément avec le même père. Donc il fallait rapporter pas mal de documents.
Ouais.
Et donc là, j'ai passé le 25 au soir chez elle, et ça a été très éprouvant pour moi, parce que c'était le premier Noël où mon père n'était pas là.
Bien sûr.
Donc c'était dans sa maison, parce que c'est sa maison à lui. Sauf que du fait du mariage, ils n'ont pas fait de contrat de mariage, donc du coup il s'avère que c'est plus sa maison, mais c'est sa maison à elle maintenant, jusqu'à ce qu'elle meure. Et après, ça va être divisé en 5, avec les 5 enfants. Et donc ça me vexe un peu. et je me dis, mon père n'a pas été si proche de moi finalement que ce que j'avais imaginé. Et là, elle me demande les papiers. Je lui dis, ouais, je ne les ai pas encore remplis. Elle me dit, bah, faut que tu te dépêches, parce que moi, j'ai rendez-vous au notaire le 6 janvier. Je lui dis, ah bon? Je dis, je ne suis pas au courant. Enfin, je n'ai pas été convoquée, entre guillemets. Et elle me dit non, c'est normal, parce que la maison, ton père m'a fait une donation de son vivant. Donc après, j'ai compris que c'était pas franchement le cas, mais comme ils se sont mariés, ça faisait office de,
c'est ça, ça
de donation. Voilà, ça revient au même. Mais elle m'a bien encensée en me disant, ton père m'a fait une donation de son vivant. Donc du coup, vous n'êtes pas conviés, les enfants ne sont pas conviés au notaire. Donc il y a que elle qui est censée y aller, mais pour autant il faut quand même que je donne des documents personnels à cette personne-là. Donc du coup je suis pas très rassurée.
Donc dans les dispositions qu'a prises votre père pour sa succession, donc c'est votre belle-mère qui hérite de la totalité jusqu'à la fin de sa vie, c'est ça?
Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, comme il n'y a pas de contrat de mariage, ils sont à moitié-moitié sur la maison,
oui,
qui était la maison de mon papa parce que c'était la maison de sa mère. Mais mon père payait le crédit immobilier et puis elle payait tout ce qui était externe. Mais, vous voyez, tout ce qui va être les courses, les petits travaux, la décoration, enfin tout ce genre de choses. Donc je sais qu'elle a mis beaucoup d'argent aussi dans cette maison, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le fait qu'elle me dise que nous, les enfants, on ne doit pas aller chez le notaire, ça me paraissait un peu bizarre. Donc après m'être renseignée, il s'avère que normalement, non, à l'ouverture du testament, les enfants sont censés être là.
Oui. Et ça, ça, Emma, je pense que vous pouvez prendre conseil d'un notaire de votre côté. Pour alors, ces questions-là, c'est probablement souhaitable.
Oui, alors moi j'ai appelé le mien de notaire. Oui. Malheureusement, il était en rendez-vous et partait en vacances à midi aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas eu ma réponse. Et le secrétariat ne pouvait pas me répondre. Du coup, j'ai appelé un autre notaire que j'ai trouvé sur Internet.
Oui.
Et parce que je voulais pas appeler le vrai notaire de mon père, parce que je me suis dit, si jamais elle a vent de ça, ça va encore me retomber dessus. Et sachant que tout le monde est ligué contre moi, en fait, dans la famille, donc ma belle-mère, mes deux frères se sont plus ou moins fâchés avec moi suite à mon attitude lors de l'enterrement.
Parce que vos deux frères, eux, prennent mieux que vous le mariage, l'annonce du mariage au dernier moment, ils le prennent mieux?
Alors, je pense que pour mon frère issu de l'union commune, oui, il le prend pas si mal.
Oui, ça c'est logique.
Et je pense que de la part de mon autre frère, il le prend pas si bien. Mais c'est même pas encore trop le problème. Là, ce qu'il me reproche, c'est de pas avoir eu de mots ou de gestes pour lui ce jour-là. Alors que lui m'a pris les devants, c'est-à-dire qu'il m'a accompagnée... au niveau de la chambre funéraire pour dire au revoir à mon père. Il m'a pris par le bras, il m'a fait avancer parce que j'étais complètement tétanisée et que j'y arrivais pas. Alors que j'y étais allée deux jours avant toute seule et j'avais réussi à franchir le pas. Mais là, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, où je me suis sentie un peu peut-être regardée ou peut-être pas, je sais pas, mais j'ai eu du mal à me dire que c'était la dernière fois que je le voyais. Et je l'ai accompagné pendant deux mois. J'allais le voir tous les jours à l'hôpital. J'ai vécu des scènes qu'une fille ne voudrait pas voir.
J'imagine.
J'ai réussi à surmonter tout ça. Et le jour des cérémonies, j'ai pas été très à la hauteur, en fait. J'étais beaucoup dans mon chagrin et beaucoup toute seule, en fait. J'ai pas réussi à me mélanger aux autres. Et le premier soir, donc après le funérarium, ma belle-mère avait organisé un petit pot avec des amis, la famille, tout ça. Et personne ne m'a trop adressé la parole et je suis pas quelqu'un qui va trop au devant des gens. Parce que la foule me panique un peu et surtout dans un contexte comme ça, j'ai pas l'aisance parce que mes frères, eux, l'ont fait. C'est-à-dire que verre à la main, en train de parler de leur vie, peut-être d'un souvenir de mon père ou je ne sais pas de quoi ils parlaient, mais en tout cas, ça a été, ils se sont vraiment bien mêlés à la société et pas moi.
Vos frères n'ont pas compris, Emma, que c'était le chagrin qui vous empêchait d'être dans la fluidité.
Du coup, à mon frère, du coup, qui n'est pas issu de la même mère, hein, qui est issu de ma maman à moi, je lui ai expliqué tout ça. On a fait un repas parce que du coup, il était vraiment fâché après moi. Et mes deux frères, qui de base ne se côtoyaient pas du tout, maintenant se sont rapprochés complètement. C'est-à-dire que moi, je suis plus invitée à rien. Ils font des choses entre eux. Je suis pas conviée. Et soit je suis parano, soit effectivement, ils parlent de moi. Et donc, du coup, les deux me reprochaient plus ou moins la même chose, alors que les deux ne me connaissent pas de la même manière. Donc, dans ma tête à moi, c'est comme s'ils avaient quand même beaucoup parlé de moi. Donc, avec mon frère issu de ma maman, il m'a balancé des erreurs au téléphone parce que j'ai pas pris le soin de lui dire un mot le jour du décès, que je l'ai pas accompagné, que je lui ai à peine dit au revoir. Et en fait, si j'ai pas dit au revoir, c'est que je commençais à faire une crise de panique et que du coup, il fallait que je sorte de cette pièce, il fallait que je m'en aille.
Et ça, il me semble, Emma, qu'il y a un malentendu entre vous et vos frères. C'est-à-dire que vos frères pensent que vous étiez distante parce que vous désapprouviez le mariage et la situation, alors que votre distance n'avait rien à voir avec la désapprobation, même si vous n'êtes pas heureuse par ailleurs de ce mariage. Mais ce n'était pas la raison. C'est que vos frères ont amalgamé les deux. Ils ont pensé que vous étiez distante du fait de votre désapprobation, alors que vous étiez distante du fait de votre chagrin et de votre angoisse.
Complètement. Et puis cette histoire de mariage, à ce moment-là, on n'en parlait plus parce que mon père s'est marié. Ensuite, il a été hospitalisé. Donc, j'étais vraiment dans l'hospitalisation et avec mes visites quotidiennes. Donc, je n'étais absolument pas dans les reproches du mariage ou même avec mon père, je n'ai fait aucun reproche. Je n'ai pas émis mon avis. J'ai accompagné mon père comme une fille doit le faire et ni plus ni moins. Donc, même mes frères n'ont même pas à me reprocher de pas avoir kiffé l'idée du mariage parce que je leur en ai même pas franchement parlé de ça. Parce que c'était délicat par rapport à mon frère qui est issu du remariage. Et comme avec mon autre frère, bon, c'était pas trop la question. Voilà, là, j'en ai pas. On en a discuté vite fait en se disant c'est un peu bizarre. Bon, bah, maintenant, on comprend mieux parce qu'effectivement, bah, 2 mois plus tard, il est plus là. Et là, le Noël, ma belle-mère, elle a encore un peu pété les plombs sur moi. Parce que le 25 au soir, c'est tous les ans, c'est chez eux. Parce que le 24, tout le monde est un peu dans sa propre famille ou dans sa belle famille. Donc, eux, pour embêter personne, ils ont tous les ans fait le 25 au soir le Noël. Mmh. Et moi, ça a été très dur de venir faire le Noël dans la maison de mon père, sans mon père.
Surtout si récemment.
Oui,
votre deuil est très, très récent.
Et qu'en plus, je suis plus ou moins fâchée avec mes frères, donc c'était un peu compliqué. Et je m'en suis encore pris beaucoup cette soirée-là. Et même à mon compagnon, ma belle-mère s'est permise de lui dire bah, elle est gentille, mais enfin, va falloir qu'elle arrête d'être le centre du monde. Alors que justement, je suis totalement dans ma réserve et que je n'ose jamais lui dire quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'elle ment, en fait, parce que je m'aperçois que plus on parle plus fort qu'elle, en fait, plus elle se tait. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui finalement se laisse faire comme moi, mais moi, elle me fait un petit coup de chaud, un petit coup de froid. Vous voyez, elle me fait une réflexion, puis à côté de ça, elle va me dire oh, ben, je suis contente d'avoir vu tes enfants à Noël. Ou c'est tout un tas de choses comme ça. Je sais que quand elle avait sa société, elle m'a embauchée donc, pour me licencier derrière, mais elle m'a quand même embauchée, donc elle a quand même fait des gestes pour moi. Mais elle ne supportait pas ma proximité avec mon père. Et donc là, j'ai plus envie de la voir, cette femme-là. Et je ne sais pas comment faire, parce que je me dis c'est quand même la grand-mère de mes enfants. Mes enfants, ils l'ont toujours connue.
Oui.
Donc je ne sais pas comment couper le lien. Le notaire n'étant pas passé, même si ça changera plus rien, j'ai pas envie d'être désagréable, j'ai pas envie de me fâcher avec mon frère qui est issu de cette femme-là.
Oui.
Et je suis complètement perdue, je ne sais pas comment faire. Et si j'appelle le notaire, elle va le savoir parce que elle sait tout. Je ne sais pas comment elle sait, mais elle sait tout. Je suis allée chercher un acte de décès à la mairie parce que j'en avais besoin pour ma mère et pour mon compagnon pour justifier une absence de travail et qu'elle me l'avait pas demandé. Elle me l'avait pas donné. Suite à ma demande. Donc, du coup, je suis allée chercher moi-même. Et le soir, elle m'a appelée vers 21h, 21h30, mais pas dans un état très frais.
Mmh.
Et donc, elle m'a engueulée, excusez-moi du terme, mais elle m'a engueulée parce que j'étais allée chercher l'acte de décès. Et je lui dis, écoute, je vois pas où est le problème, c'est l'acte de décès de mon père, tu me l'avais pas spécialement donné, j'ai pas voulu te réembêter avec ça, pour pas te remettre dans le chagrin, je suis allée le chercher, ça m'a pris 5 minutes, j'y suis allée, enfin voilà, et donc du coup, pour elle, je lui ai fait derrière le dos, je fais un affront, c'est pas bien, enfin, j'ai eu droit à plein de choses. Et là, je ne sais pas comment lui dire que, pour le notaire, moi, il est hors de question que même si finalement le résultat, je le connais, j'ai bien compris que du coup, comme il n'y avait pas de contrat de mariage, elle avait raison dans les faits où la maison serait divisée. Enfin, la maison, pour l'instant,
elle en a usufruit pendant toute sa vie.
C'est ça. Oui. Et après, ce sera divisé avec les 5 enfants, dont 2 qui ne font pas partie du coup de l'union de mon père. Donc déjà 2 en plus, mon frère en commun qui va avoir la part de sa mère et la part de mon père. C'est-à-dire que mon frère et moi, on perd la maison de notre grand-père, plus ou moins. Enfin, de notre père, pardon. On perd cette maison-là quand même grossièrement. Et ça m'ennuie un peu parce que je sais qu'il ne voulait pas se marier et je ne sais pas comment elle a fait pour en arriver là.
Oui.
Et que quoi que je dise, je me fais reprendre. Et là, jusqu'au 25 au soir, encore une fois, j'étais le centre de l'intérêt alors que je suis plutôt distante et que j'essaye de pas m'imposer justement et jamais je dis un mot plus haut que l'autre devant elle pour éviter qu'elle me rabaisse. Mmh. Elle m'a rabaissée, ça fait 30 ans que je suis rabaissée à chaque fois que je la vois.
C'est ça, il y a une rivalité. En fait, vous êtes la seule fille dans une fratrie de frères, donc elle n'est pas en rivalité avec les enfants masculins, moins encore avec le sien, avec votre père. Vous êtes celle qui pouvait être en rivalité avec elle pour l'amour exclusif, peut-être chacune de vous. Forcément été en demande d'amour envers votre père, ce qui est normal, ce qui vous met d'une certaine manière en rivalité. Ça, c'est la situation, elle est structurellement comme ça depuis que cette femme est entrée dans la vie de votre père.
Oui, mais en fait, quand elle me regarde, elle voit ma mère. C'est-à-dire qu'elle est tellement jalouse de même par rapport à ma mère, elle est complètement odieuse. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand elle me voit, elle voit ma mère.
Votre père et votre mère avaient encore des liens
Oui, des liens, alors on s'entend, hein, mais quand je faisais l'anniversaire de mes enfants, je sais que j'ai fait les 11 ans de ma fille et les 1 an de ma dernière. Comme j'ai pas fait de mariage, j'ai pas fait de baptême, j'ai pas fait tout ça, j'ai fait une grosse fête ce jour-là avec un barnum, enfin un traiteur, enfin quelque chose de très bien. Et donc ils se côtoyaient encore, ils se sont croisés à ce moment-là. On a tous chacun des enfants, donc il s'est arrivé qu'ils se croisent. Mon père et ma mère avaient pas des relations forcément cachotterie, mais avaient certaines relations, oui.
Emma, il me semble que dans toutes les difficultés qui sont liées à cette situation, il y a des difficultés plusieurs ordres. Il y a votre mésentente de toujours avec votre belle-mère. Oui. Il y a la situation qui s'est tendue avec vos frères. Il y a la question de la succession et du testament. Et il y a ce qui me paraît, moi, la question peut-être la plus importante pour la suite de votre vie, c'est la difficulté que vous avez à faire le deuil de votre père dans un contexte où vous lui en voulez. Et ça, c'est une douleur qui est entre vous et vous. Et je crois que c'est la question la plus importante.
Je suis assez d'accord avec vous, excusez-moi de vous couper, mais les 2 mois où je l'ai soutenue tous les jours, mes enfants ne me voyaient plus. Hein, je suis en formation en ce moment, je rentrais très très tard, je restais avec lui à l'hôpital. Ça a été vraiment des moments très durs. Je n'étais pas du tout dans la méchanceté avec mon père, je lui en voulais de rien, je l'ai encouragé, je l'ai aidé, j'avais pas de ressentiment particulier, mais c'est en voyant la fin et en me disant que ma belle-mère, tout ce qu'elle me reproche, c'est qu'elle ne sort pas de nulle part, même si je sais que 50% de ce qui sort de sa bouche n'est pas forcément vrai, je me dis, voilà, tout le monde s'est un peu ligué contre moi, mon père finalement, il a fait, alors qu'il m'avait dit qu'il se marierait jamais avec elle, il l'a quand même fait. Bon, je n'en ai pas tenu rigueur parce que je m'étais dit c'est une histoire de nom. Elle voulait porter son nom. Peut-être qu'il a voulu la valoriser sur ce sens-là. Et ça en me disant ça, ça me choquait moins. Sauf que là, en fait, c'est tout un amalgame qui fait que moi, là, tout de suite, je me dis mon père, il n'a pas pensé à moi particulièrement.
Là, vous le dites, Emma, c'est ça la question la plus douloureuse de la situation. C'est que vous sentez une blessure d'amour entre votre père et vous dans la façon dont il a pris les décisions pour la fin de sa vie.
Oui, mais enfin, mon père, c'était quand même l'homme de ma vie. Enfin, l'homme de ma vie, je m'entends, mais c'est le premier homme qui m'a aimée. Et on avait une très belle relation. Et là, je me dis, c'était du vent, tout ça. Enfin, j'étais rien, en fait. Elle a réussi à l'embobiner pour que finalement, je ne sois rien.
Oui, je comprends que vous disiez ça. C'est justement cette pensée qui vous jette dans une telle douleur. Parce que j'ai envie de vous dire, Emma, je pense que la question la plus importante, c'est celle du deuil de votre père et que vous puissiez trouver dans ce deuil une certaine paix. Je ne suis pas en train de dire que vous devez vous accommoder de ce qu'il a décidé, de trouver ça bien, ni de pardonner, ce n'est pas ça. Mais c'est trouver une certaine paix, avoir une intime conviction en vous sur ce qui s'est passé, réfléchir aux choses, les repenser, pour que vous puissiez faire un deuil plus paisible de votre père. Et je pense que si vous retrouvez cette paix à l'intérieur de vous, je pense qu'il y a de fortes chances que d'autres choses se dénouent en aval. C'est-à-dire si vous, vous êtes mieux, je pense que des choses vont s'adoucir avec vos frères et puis vous mettrez une certaine distance avec des sujets qui ne sont pas au cœur de votre vie, du type ce que peut penser votre belle-mère désormais. Donc, je crois que vraiment les choses commencent par là. C'est d'essayer de trouver un chemin pour faire le deuil de votre père en ligne avec la belle histoire que vous avez vécue et en intégrant les décisions qu'il a prises. Et moi, je serais tentée de vous dire, est-ce que vous avez envisagé de vous faire accompagner là maintenant pour cette question-là? Parce que c'est là typiquement que la thérapie peut vous aider. Parce que là, vous êtes très seule, Emma, et ça doit être très difficile parce que vous êtes la seule à vivre ce que vous vivez. Vos frères ne vivent pas la même histoire. Ils n'ont pas eu la même relation avec votre père, ils n'ont pas la même relation avec votre belle-mère, ils n'ont pas la même position dans la fratrie, et pour le dernier, il n'a pas la même position par rapport au couple. Donc vous êtes seule à ressentir ce que vous ressentez, vous ne faites cause commune avec aucun des membres de la famille, indépendamment des disputes. Donc je pense qu'il y a quelque chose là qui est votre chemin entre vous et vous. Comment vous pouvez faire le deuil de cette relation qui, d'un côté, a été très forte, idyllique même. Vous avez eu une très belle histoire avec votre père, mais qui, à la fin de la vie de votre père, de par les décisions qu'il a prises, vous a blessé. Et ça, je crois que c'est typiquement le type de question qu'on peut aller poser en thérapie.
Justement, je suis suivie déjà depuis au moins 2 ans. Donc, c'était bien avant le décès de mon père, mais parce que j'ai déjà une fragilité. J'avais fait une grande dépression il y a 13 ans et je pouvais même plus sortir de chez moi. J'avais peur de la foule et donc le décès m'a remis un petit peu là-dedans, au moment de la cérémonie, j'entends.
Oui, oui, vous m'avez dit que vous aviez une sorte de crise d'angoisse, de claustrophobie.
C'est ça. Et là, par rapport au décès de mon père, qui était début décembre, jusqu'au 25 au soir, j'étais pas fâchée après mon père. J'ai eu un décès qui était complètement normal. Et en fait, c'est ma belle-mère qui, encore une fois, m'a mis de l'huile sur le feu en me disant que non, moi, j'étais personne pour aller chez le notaire. Et que, vous voyez, c'est ce côté un peu encore qu'elle a de m'écarter de la famille. Parce que, mis à part ça, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à m'affirmer. C'est-à-dire que je vais entendre la version d'un de mes frères, je vais être d'accord avec lui. Je vais entendre la version de ma belle-mère, je ne vais pas forcément être d'accord, mais je peux éventuellement entendre 2-3 choses. Mon autre frère, c'est pareil, je peux entendre sa version. Et en fonction de là, avec la personne avec laquelle je me trouve, j'arrive facilement à être d'accord. Et puis quand je réfléchis de côté toute seule, je me dis non, en fait, je me suis fait avoir. C'est-à-dire que je n'ai aucun caractère. C'est-à-dire que je ne sais pas m'affirmer et je ne sais pas comment faire. Parce que est-ce que c'est judicieux de me couper de cette femme-là qui m'a pourri la vie pendant 31 ans? Oui, ça l'est judicieux. Par rapport à mes enfants, est-ce que je peux lui faire subir ça à cette femme-là? Je ne sais pas.
Là, vous êtes dans tous ces sentiments à quelques semaines du deuil. Les sentiments évoluent toujours. Ça ne veut pas dire que vous allez changer radicalement de point de vue, mais je crois que c'est trop tôt pour que vous puissiez vous projeter loin dans l'avenir pour dire « je vais priver cette grand-mère de ses petits-enfants ». Je crois que c'est trop tôt. Là, il me semble que l'urgence, c'est que vous soyez mieux, parce que vous le dites, vous n'étiez pas dans le ressentiment envers votre père, mais la scène du 25 décembre a causé des blessures. Donc, je pense que c'est de ça qu'il faut s'occuper en premier, et de veiller à ce que les faits et gestes de votre belle-mère ne viennent pas entacher la belle relation que vous aviez avec votre père et ne viennent pas jeter une ombre sur le deuil. Je crois que là, vous avez à préserver votre deuil de toute interférence pour que cet adieu, en fait, hein, parce que le deuil, c'est quand même un adieu, en tout cas pour cette vie que vous avez partagée avec lui, puisse se faire vraiment, j'allais presque employer le terme spirituellement, c'est pas religieux ce que je dis là, mais que les choses puissent se faire vraiment entre vous et votre père.
Justement, j'ai une question là-dessus, et je ne sais pas si c'est dans vos cordes, mais je me dis, j'ai demandé des signes à mon père depuis qu'il est décédé. Je demande des signes régulièrement. J'ai des rituels, j'allume des bougies, je fais tout un tas de trucs. Non pas que je sois folle, mais j'essaie de me rapprocher de
lui. Je ne crois pas du tout que vous soyez folle. Non.
Et j'essaie de l'interpeller et j'ai pas de réponse. Et c'est perturbant parce que dans ma tête, je suis pas spécialement croyante. Du tout, j'y connais pas grand chose en religion, mais j'essayais toujours de me mettre à la portée de mon père à ce moment-là en me disant il va me faire un signe, il va me laisser un petit message qui va m'apaiser et je vais demander bêtement et ça n'arrive pas. Et
je comprends tout à fait votre question. Tout à l'heure, dans la chronique que vous avez peut-être entendue, on a parlé de ce qui peut se transmettre d'une personne à une autre. Est-ce qu'il y a des choses qui se transmettent une fois qu'après la mort? On ne sait pas. La science cherche, la science avance. Il y a certainement des transmissions qu'on ignore encore. Donc, il y a des possibilités. Et de toute façon, les différentes spiritualités à travers le monde, dans les différentes cultures, sont plutôt allées dans le sens d'une foi, dans ces possibilités de transmission. Mais en revanche, quelque chose dont je suis sûre, Emma, pour avoir étudié aussi bien les hypothèses scientifiques actuelles que les pratiques spirituelles, parce que finalement, quand on dit que les vœux se transmettent de cœur à cœur, c'est aussi bien un postulat spirituel que quelque chose que la science essaie d'éclairer. Enfin, c'est la même chose. Il y a quelque chose dont je suis sûre, c'est que par rapport à ça, si vous demandez des signes, que vous vous mettez dans un état de prière ou de demande, toutes les traditions spirituelles s'entendent pour dire qu'il faut le faire sans attachement au résultat. Donc pour ma part, je suis pas capable de vous guider, parce que là, c'est pas ma discipline. Je suis juste capable de vous transmettre ce que culturellement je sais pour avoir étudié ces traditions spirituelles bouddhistes, chrétiennes pour la partie enseignement en tant que maître spirituel, pour les différentes sagesses. C'est que quand on demande des signes, il faut le faire sans objectif, sans stratégie et sans attachement résultat. C'est-à-dire, pas dire « je veux un signe pour faire justice, faire obstacle à ma belle-mère, pour établir le testament, etc. »
Ah non, c'était pas du tout les signes que j'avais demandé. Mais si j'ai encore un peu le temps, je voulais vous expliquer quelque chose aussi, c'est que je voulais effectivement pas fêter Noël cette année, parce que pour moi, c'était trop pénible.
Oui.
Sauf que j'ai trois enfants et que je me suis dit « je peux pas les priver d'un sapin ». Et donc, le jour où je me décide de prendre un sapin, de le décorer avec eux, je me lève le matin, le sapin était par terre. Et j'avais des décorations qui sont bon, cassées, ça c'est pas très grave, mais comme le jour du décès, il n'y avait pas d'étoile dans le ciel, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, bah, comme il n'y a pas d'étoile, je lui ai dit, on va dire que papy, c'est la lune. Mmh. Et j'avais une petite lune. Et du coup, ma lune, elle s'est cassée de mon sapin, vous voyez, c'est très bête. Mais moi, ça m'a rendu mal, je me suis dit qu'il était fâché après moi. Je me suis dit que c'était pas... Il y avait quelque chose qui lui déplaisait, je ne savais pas quoi.
En tout cas, d'après ce que je sais des traditions spirituelles, il est impossible que quelqu'un qui serait devenu pure conscience, si on pense qu'il y a quelque chose, soit fâché après vous. Ça, je pense que c'est un effet de votre angoisse.
Donc, oui, je me doute bien que ce n'est pas très rationnel ce que je vous dis. Hein.
Je vous comprends, parce que l'angoisse, c'est irrationnel. Donc je comprends que vous disiez ça. Vous savez, de façon très sûre pour le coup, je pense que votre manière de chercher des signes, de mettre de la poésie dans votre deuil, de chercher la présence de votre père dans des astres, une manière de poétiser son absence, ça, ce sont des choses très positives et très constructives pour votre deuil. Ça, pour moi, c'est des choses qui sont dans la bonne direction. Mais je pense que pour que vous puissiez faire ça, il s'agit de vous mettre le plus possible dans une sorte de bulle. Et pour le moment où c'est le début de votre deuil, de ne pas trop mélanger pour l'instant les questions juridiques, notariales, les conflits avec votre belle-mère, les conflits avec votre frère. De rester pour l'instant sur le soin que vous avez à prendre de vous-même pour ce deuil. Et votre façon de chercher des signes, de mettre des belles images sur la disparition de votre père, pour moi, ce sont des façons d'avancer dans votre deuil.
D'accord, mais en fait là c'est parce que le temps me presse, c'est pour ça que je pense déjà à ces démarches-là, c'est parce qu'a priori le rendez-vous du notaire serait le 6 janvier et que je n'ai pas encore été moi convoquée et comme je sais qu'elle a déjà fait des faux et des usages de faux, et, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, je me dis est-ce qu'elle a fait des papiers pour que je puisse pas assister. Donc je voulais un peu savoir aussi au niveau des auditeurs s'ils ont déjà connu ça. Est-ce que un notaire nous prévient les enfants ou est-ce que c'est à la nouvelle conjointe qui doit redispatcher le rendez-vous. Enfin tout ça pour moi c'est important. Elle m'a tellement embêtée dans toute ma vie que je voudrais pas me faire encore avoir sur ce genre de procéder, en fait.
Alors, je comprends, Emma, vous en appelez aux auditeurs, donc je passe la parole à Paul qui va vous dire ce qu'il vous conseille.
Oui, parce qu'on a eu des messages d'auditeurs qui ont donné des conseils sur tout ce qui est juridique. À Michel, par exemple, qui dit, sans contrat de mariage, sans testament, votre belle-mère devrait avoir droit à la moitié des biens, plus l'usufruit de la maison. L'autre moitié devrait être partagée par les enfants ou ayant droit. D'autre part, sauf erreur, les héritages passés ne rentrent pas dans la nouvelle succession puisque ce sont des biens propres à votre père. Et alors, il y a aussi au 09 69 39 10 11 Annick ou Carole qui vous ont conseillé de ne rien donner à votre belle-mère et de ne rien signer sans en avoir parlé au notaire avant. Vous avez votre propre place en tant que fille. Et donc, si le notaire a besoin de quelque chose, il vous le demandera. Et puis, ce petit message de Christian qui dit qu'on sent quand même beaucoup d'amour pour votre père. Il y a aussi beaucoup d'émotions en vous. Et quant à l'attitude de votre belle-mère, peut-être pourriez-vous prendre un peu de recul afin d'éviter d'en arriver au mépris. Et puis, vous êtes une femme sage, je n'ai aucun doute, vous saurez le faire, dit Christian.
C'est gentil, merci beaucoup.
Bon, Emma, donc, oui, les auditeurs vous incitent aussi à cette distance, à défendre vos droits, à vous informer, mais à prendre aussi cette distance par rapport à des choses qui, bientôt, auront moins d'importance dans votre vie.
Oui, tout à fait.
Comme la relation avec votre belle-mère, ce qu'elle en pense, ce qu'elle peut faire, pas faire, vous voyez. Et oui. Donc, ce qui se dessine, c'est deux pôles. C'est effectivement vous intéresser, vous avez raison, c'est important, vous intéresser à vos droits et par ailleurs, vous prendre soin de votre deuil.
Mais elle m'a tellement humiliée que j'ai pas envie que ça continue parce que j'avais dit qu'une fois que mon père serait plus là, j'ai gardé le courage pendant toutes ces années. parce qu'il était là et par respect pour lui. Maintenant qu'il est plus là, j'ai plus à m'infliger. J'ai un manque de confiance en moi, je suis en thérapie à cause de ça et tout vient un petit peu de là. Et donc maintenant j'ai envie de faire barrière, mais je veux pas me fâcher avec mon frère non plus. Enfin, c'est beaucoup de questionnements divers et variés.
Je le comprends, mais ça c'est trop tôt. Vous voyez, je pense que vous pouvez difficilement tout traiter en même temps. Je pense que déjà, si vous arrivez à traiter la question très légitime de vos droits d'une part et de l'autre, puisque vous êtes en thérapie, avancez dans le chemin de votre deuil pour trouver une certaine paix, pour peut-être trouver le mode de communication, les rituels entre vous et votre père, entre vous et le souvenir de votre père qui vous conviennent. Tout ça sont des façons de faire le deuil. Et quand vous serez un peu avancé, plus paisible, que vous aurez un peu élaboré vos pensées, vous serez au clair dans votre façon de ressentir les choses, vous allez trouver des solutions, vous allez voir des options par rapport à vos frères, à votre belle-mère. Vous verrez bien à ce moment-là. Je crois que là, c'est trop tôt. C'est un tel choc ce qui vous est arrivé pour une relation tellement proche que vous ne pouvez pas tout traiter en même temps. Vous voyez ?
Oui, je vois.
Oui. Et je trouve que là, pour reprendre votre terme, il y a des petits astres dans votre tête et dans votre esprit pour avancer dans ce deuil, pour l'adoucir pour vous-même et pour vos enfants. Donc je crois que c'est vraiment vers ça qu'il s'agit de vous avancer.
Ben, je vous remercie beaucoup.
Écoutez, avec plaisir Emma, je vous envoie beaucoup, beaucoup de courage pour ce chemin. J'espère que la nouvelle année vous apportera un apaisement et je vous embrasse.
Moi aussi, encore un très bel anniversaire à Paul et tous mes voeux pour la nouvelle année.
Merci
tout le monde.
Beaucoup, toute l'équipe vous s'entend et Paul vous sourit.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Au revoir Emma.
Jusqu'à minuit 30,
Sabine Calégari sur RTL.
Jusqu'à minuit 30,
Sabine Calégari sur RTL.
Parlons-nous.
Soyez bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, votre espace pour parler de vous, chercher à mieux vous comprendre vous-même, à trouver des solutions ou à aider d'autres personnes par l'expérience que vous avez vécue. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Nous avons beaucoup de réactions par écrit ce soir. N'hésitez pas par SMS 64 900 code RTL ou sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Bonsoir Hélène.
Oui, bonsoir Sabine. Merci de prendre mon appel.
Avec plaisir, je suis tout oui.
Oui, alors moi je voulais aborder avec vous un problème récurrent qui dure depuis des années et des années. C'est que je fais des cauchemars.
Oui.
Des cauchemars, ça doit faire à peu près 10 ans que je fais des cauchemars récurrents. Alors ça peut être 2 fois, 3 fois ou 4 fois dans une nuit. Et ce, toutes les nuits.
Oui, toutes les nuits. Donc, depuis 10 ans, 3-4 fois par nuit.
Pardon ?
Oui, ça doit être très très éprouvant pour vous.
C'est très éprouvant parce que là, je suis épuisée, je ne trouve pas de solution. J'ai fait des psychothérapies parce que bon, j'ai un passé quand même un peu douloureux. J'ai eu une enfance douloureuse. Bon, ben maintenant, j'ai passé les 70 ans, j'ai énormément travaillé sur moi.
Oui.
J'ai fait des psychothérapies, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EMDR récemment et je n'arrive toujours pas à solutionner ce problème. Je suis même passée par l'acceptation en me disant, mais il est normal après tout ce que j'ai vécu quand j'étais jeune ou même plus tard, il est normal que tout ça remonte malgré tout le travail que j'ai fait, mais ça ne change rien, si vous voulez. Je pensais que ça allait un petit peu apaiser les choses, mais non, ça prend de l'ampleur et bon, j'ai l'impression que mon médecin m'écoute plus trop parce que c'est devenu une habitude.
Et parce qu'il n'a pas de solution, peut-être.
Pour moi, c'est très, très, très difficile.
Oui, oui, j'imagine. Mais Hélène, déjà en première approche, pour vous expliquer comment fonctionne le cauchemar ou récurrent ou le rêve traumatique, pour ça que vous avez raison de vous en inquiéter, c'est que la façon dont notre esprit se répare après un choc traumatique, c'est de faire des rêves récurrents, mais le rêve récurrent se transforme petit à petit, c'est-à-dire même s'il se répète, nuit après nuit, des petits détails changent. Le rêve devient moins violent, il devient moins douloureux. Et petit changement par petit changement, c'est comme ça que le traumatisme est métabolisé par l'esprit humain au fur et à mesure de ses rêves. Donc le rêve traumatique, en principe, c'est un processus de guérison, même si c'est un rêve douloureux, qui sert à métaboliser, à intégrer petit à petit la situation traumatique. Et le rêve, au fur et à mesure que l'esprit intègre, se transforme, devient moins pénible, moins violent. Freud a très bien expliqué ça en travaillant sur les rêves de guerre, par exemple. Mais vous, dans ce que vous dites depuis 10 ans, est-ce que vos rêves récurrents, vous avez le sentiment qu'ils sont strictement à l'identique ?
Non, non, non. Effectivement, je dirais, j'emploierais le mot glauque. Ils sont moins glauques.
Oui.
C'est plus à la limite dans la réalité. Par exemple, j'ai eu des problèmes de travail, j'ai été plus ou moins harcelée, mise au placard à plus de 50 ans.
Il y a 20 ans donc.
Non, il y a 10 ans.
Il y a 10 ans, donc à peu près en même temps que le début
voilà,
de vos rêves.
Voilà, ça correspond. Oui. Et depuis 10 ans, c'est difficile à croire, je passe toutes mes nuits au travail. Depuis 10 ans.
Et alors, oui, qu'est-ce qui se passe dans vos nuits? Vous voulez bien préciser un peu?
Pardon? Je suis en retraite donc depuis plus de 10 ans, mais on m'oblige à venir travailler alors que je suis en retraite et on ne me paie pas et on me dit que de toute façon je suis coincée parce que si je porte plainte je serai complice. Et ça, une période de mon travail, on me demandait de venir travailler le samedi en cachant plus ou moins ma voiture pour pas que les autres le sachent parce qu'il y avait du travail, et de toute façon, j'ai été malmenée par les différents directeurs que j'ai eus, avec qui j'ai travaillé, j'ai été licenciée par la médecine après le. L'intervention de la médecine du travail et du médecin, parce que j'étais à un point où je ne pouvais plus. Mmh. Et si vous voulez, je ne suis pas allée jusqu'au bout de la démarche, parce que mon entreprise me devait de l'argent. J'ai été sous-payée et j'ai laissé tomber parce que je ne voulais plus entendre parler une fois que j'étais licenciée. Et je passe toutes mes nuits, c'est la même chose. Je suis au travail et l'histoire est la même. Par contre, où ça devient moins glauque, c'est quand je rêve de mes parents, de ma famille. Là, ça devient moins trash, je dirais. Ça devient plus perturbant, mais c'est moins violent qu'avant. Oui, effectivement.
Et les sujets familiaux, ils sont moins récurrents. Les sujets familiaux, même si c'est plutôt des cauchemars aussi, vous diriez que c'est des cauchemars aussi ou c'est...
Je dirais que ce sont de mauvais rêves. Parce que pour moi, j'ai fait des cauchemars et le cauchemar, c'est quelque chose de violent qui réveille, qui est censeur et tout. Et non, là, c'est pas le cas. Mais le matin, je me réveille. D'abord, je me réveille souvent. Je suis un peu insomniaque. Je me réveille souvent et dès que je me rendors, c'est reparti, quoi. Ça peut être reparti dans la même chose. Et le problème, c'est que depuis quelque temps, tout ce que je vis dans la journée et qui n'est pas forcément douloureux, j'ai une vie épanouie quand même,
oui.
Je le revis la nuit en négatif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Oui, tout ce qui m'arrive de bien dans la journée, je le vis, mais mal, ça se transforme en échec ou en mal la nuit. Et alors là, il y a un mélange de travail, de famille, d'amis, tout est mélangé, à tel point que le matin, je me réveille, je dois tout remettre dans l'ordre parce que je ne sais plus où j'en suis, quoi.
En fait, ce à quoi la situation fait penser, c'est que dans votre vie réelle, donc sur le plan conscient, vous êtes heureuse,
oui.
Et avez plutôt des pensées positives, pour faire simple.
Oui, je suis quelqu'un de très positif. Oui,
d'accord. Oui. La nuit, le rêve, c'est l'activité de l'inconscient. Donc, sur la scène de l'inconscient, donc si le rêve, c'est la scène de l'inconscient, viennent des pensées négatives, des sentiments d'échec, des scènes d'humiliation. Donc, ça laisse supposer que autant vous êtes heureuse au plan conscient et positive, c'est votre volonté, c'est comme ça que vous avez construit votre vie, vous avez exercé votre liberté, autant ça donne à penser que dans votre inconscient demeurent des croyances, des souvenirs et des programmes, des visions de l'existence qui, elles, sont obscures et qui probablement viennent de votre enfance et n'ont pas été guéries.
Oui, 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 absolument. Mais le problème, c'est que maintenant, bon, je suis quand même âgée, j'ai plus de 70 ans, et je trouve ça bizarre d'ailleurs, à mon âge, de faire autant de mauvais rêves, et je me dis, bon, que faire? Parce que je suis passée par toutes les phases, je vous dis psychothérapie, mais j'ai fait des tas de choses, et là je tourne en rond. J'ai vu un psychiatre il y a un an qui m'a dit de faire de l'EMDR. J'ai fait de l'EMDR, et maintenant la personne avec qui je fais de l'EMDR, elle me dit qu'il faudrait peut-être voir un psychiatre.
Oui, j'en
ai vu.
Parce qu'elles sont démunies, et donc elles ne savent plus comment vous aider.
Oui, absolument. Oui.
Hélène, on va marquer une pause, le temps des informations. On se retrouve juste après, donc surtout, vous restez en ligne, et on se retrouve dans quelques minutes.
Pas de souci, merci.